Il était une fois l'histoire d'un passionné de lecture qui a décidé de commencer à écrire son histoire de directeur financier à 25 ans seulement. On dit souvent que la vie est faite de rencontres, mais pour Pierre Mariage, c'est un vrai coup de foudre professionnel qui s'est opéré avec les fondateurs de Selectra en 2017, alors qu'il était encore auditeur financier chez KPMG. Cette rencontre l'a mené à quitter sa ville natale de Valenciennes pour partir vivre à Paris et y débuter son rôle de directeur financier chez Selectra, entreprise en hyper-croissance spécialisée dans la comparaison des prix des fournisseurs d'énergie. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Florence et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et ma morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Pierre Mariage, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens de te présenter avec les quelques informations que j'avais sur toi, mais pourrais-tu te présenter avec tes propres mots ?
Bien sûr, bonjour Florence, merci de m'inviter sur ce podcast. Donc moi je m'appelle Pierre, tu l'as déjà dit, j'ai 30 ans, je suis marié, je suis papa depuis pas longtemps, ça fait 3 mois et demi, c'est un peu sportif.
Félicitations.
Merci. Je suis parisien et DAF de Selectra depuis 4 ans et demi, quasi exactement. Et puis mon parcours est académique et professionnel est relativement classique, comme tu l'as dit. Après une classe préparatoire, une école de commerce, je suis rentré chez KPMG en département PME, et puis au bout d'un an et demi, c'est là que ça a commencé à s'emballer avec Selectra qui arrive un peu comme ça, sans prévenir, et ça prend le tournant qui nous amène jusqu'ici.
Et justement, à propos de Selectra, est-ce que tu peux présenter un petit peu plus au sujet de l'entreprise ?
Bien sûr. Alors, Selectra, c'est un comparateur des contrats de la maison, historiquement tourné sur l'énergie, mais on s'est diversifié. Donc, il y a notamment le télécom, puis l'assurance. L'idée, c'est de faire prendre conscience, grâce à des contenus sur le web, aux consommateurs qui peuvent réaliser des économies sur leur contrat de la maison. Encore une fois, c'est axé sur l'énergie. Et après, il y a une diversification. Et donc, grâce à divers outils, des articles, des comparatifs et un comparateur, eh bien, les consommateurs voient qu'ils peuvent réaliser ces économies, ils nous appellent, on a un call center, et ce call center transforme les appels en ventes d'apport d'affaires, c'est entièrement gratuit pour le consommateur, et ces ventes d'apport d'affaires aux fournisseurs d'énergie, de télécommunications, d'assurance, nous sont rémunérés, et c'est ce qui constitue notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2021, on est présent sur plus de 15 pays. On est à 78 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 1500 personnes réparties un peu partout dans le monde, principalement en Europe et principalement en Espagne.
Et justement, à propos de Selectra, donc tu disais que tu es arrivé maintenant il y a 4 ans et demi. Quand tu es arrivé à 25 ans, du coup, quelle a été ta mission principale en arrivant ?
Alors, ça a été au global, de gérer une forme, voire une crise de croissance. On a donné quelques chiffres tout à l'heure pour remettre en perspective ça. En 2015, Selectra, c'est 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc déjà, tu les mets en parallèle avec 7 ans plus tard, les 78 millions. Et en 2017, c'est 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on fait quasiment plus 300% de croissance. Et dans la direction financière qui n'existait pas à l'époque, ça commence à tirer un petit peu. Il y a une tension qui se crée un peu partout. Au niveau des clôtures comptables, c'est moins facile qu'avant, vu qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Au niveau du reporting, du cash management, il y a plein de problématiques de la paye qui se créent et qui étaient gérées à l'époque par les deux associés fondateurs qui sont toujours gérants du groupe et par une personne qui était dans l'équipe en plus. Et à ce moment-là, ils sentent bien que ça commence à tirer trop fort et que si on ne résout pas cette crise de croissance, on va se retrouver avec des problèmes insolubles. Des comptes pas certifiés par le commissaire aux comptes, ce qui pourrait arriver, des contrôles fiscaux qui se finissent en massacre, une impossibilité à reporter notre activité, même au-delà de ces scénarios-là. Si un jour on perd de l'argent et qu'on sait pas d'où ça vient, c'est quand même vachement embêtant. Des salaires qui sont payés en retard, ce genre de choses. Donc, y a besoin d'une direction, et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la création du poste de directeur financier, et donc mon arrivée.
Donc c'était un besoin de structure, de mise en place de process.
Oui, tout à fait. Il y a une partie mise en place de process de gestion de la production comptable, de gestion de la production de paye. Et il y avait aussi, à mon avis, une idée de direction dans le sens donner un sens à ce qu'on fait. Par exemple, on a une filiale en Espagne qui est en centre de service, et cette filiale-là était systématiquement pleine de cash, et la société mère courait un peu après l'argent et après les encaissements clients. Vous voyez, c'est ce genre de choses où il n'y avait pas besoin de refaire le monde, je dirais, mais de se poser un petit peu et de réfléchir, de poser les choses sur la production, de mettre en ordre ces choses-là pour ensuite comprendre comment on allait évoluer sur des choses simples au début, et puis après un petit peu plus musclé quand même. On a mis en place du contrôle de gestion, du prévisionnel, voilà, on a des cash flows prévisionnels, enfin comme dans toute entreprise établie, je dirais. Mais oui, la mission c'était ça à la base. Il y a un besoin fort de structuration qui est la base de cette mission et de cette création de poste.
Et pour remettre un petit peu de contexte, quand tu es arrivé, quelle était la taille et la structure de l'équipe financière ?
Alors, sur la société mère, donc la société française, Selectra SAS, qui était une SARL à l'époque, sont les deux associés fondateurs, plus une personne qui fait office manager, de gestionnaire de paie, de gestionnaire RH. Alors je dis fait office, c'est pas du tout par rapport à un jugement que je porte sur cette personne-là ou sur son travail, c'est plutôt dans l'optique d'un manque de direction, on savait peut-être pas trop ce que c'était un poste de direction financière, et donc on a créé un poste un peu fourre-tout, quoi, quelqu'un qui fait les papiers, et puis voilà. Donc quand j'arrive, la structure de l'équipe c'est celle-là, et donc in fine, comme j'arrive pour faire gagner du temps aussi aux associés fondateurs et qui se délestent de cette partie-là, la structure de l'équipe c'est une personne plus moi.
Et donc, quand tu es arrivé, quelles sont les priorités que tu as définies, parce qu'entre guillemets, il y avait un petit peu tout à faire.
Oui, exact. Alors, il y a eu deux axes principaux sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, ça a été la paye. Ça commençait à être un peu en tension au niveau de la paye. On commençait à avoir quelques petits retards. On n'était pas serein là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui compte pour les salariés dans l'image de l'entreprise. C'est vraiment ultra important d'être payé en temps et en heure. Tu peux pas vraiment engager tes collaborateurs et leur demander d'être sérieux quand toi, tu te mets à les payer le 5. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, on a mis en place des process relativement simple, du rétro-planning, de paye, commencer la production plus tôt, aller identifier les différents interlocuteurs pour faire en sorte que le dernier jour du mois, délai de virement bancaire inclus, les payes soient sur les comptes des salariés. Ça a été très vite parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est une histoire d'organisation, et ça a été un peu un quick win, quoi. En un mois, c'était fait, et ça a scié pas mal la confiance. Et le deuxième axe, ça a été la fiabilisation des flux comptables. Alors ça a été vite parce qu'il y avait déjà des outils automatiques de production mis en œuvre, des liseuses de factures et des liseuses de comptes bancaires qui font qui passent les écritures de compte, quoi. Et puis après, fiabiliser des reporting PNL, cash, à minima, histoire que on sache où on va. Pas encore par marché, business, énergie, télécom, assurance, tout ça, mais au moins par pays, savoir la trajectoire qu'on prenait et savoir analyser, commencer à analyser les tendances qu'on pouvait voir. Tiens, on a fait moins de chiffre d'affaires, bon, ça vient d'où ? On fait moins de marge, on s'y attendait pas, ça vient d'où ? Mettre en place une proto-démarche de contrôle de gestion et de revue, de reroll des prévisionnels qu'on maîtrise aujourd'hui, mais mettre en place ce début, cet embryon de reporting d'activité, vraiment, encore une fois, dans l'optique de donner une direction, un sens financier, et savoir où va l'entreprise, dans le sens on avance dans quelle direction, est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on perd de l'argent, et
avoir cette vision des chiffres de l'entreprise.
Exactement.
Quoi, pour baser un petit peu ses décisions sur des données.
Exactement. Et travailler ensuite sur avoir une plateforme pour le développement d'autres fonctions, de contrôle de gestion, de prévisionnel, de plan de financement si l'on a besoin, de contrôle du BFR, toutes ces choses-là qui découlent d'une production comptable, on l'oublie parfois, mais d'une production comptable solide et saine en laquelle on a confiance. On peut faire des rapports super de BFR ou de PNL si les données comptables sous-jacentes sont complètement fausses. On va pas aller bien loin.
Garbage in, garbage out.
Exactement.
Par rapport à tes deux priorités que tu expliquais, j'imagine que tu as eu besoin de profils spécifiques parce que quand tu es arrivé, même au niveau de l'équipe, hein, il y avait vraiment aussi l'équipe à former. Quels ont été les profils que tu as recherchés en priorité pour atteindre tes objectifs?
Alors, pendant, je dirais, un an, j'ai travaillé avec la personne qui était là, et puis bon, après, elle est partie. Et puis, c'est effectivement posé la question des profils à rechercher, puisque bon, moi, j'avais défriché, entre guillemets, plein de sujets, et il fallait que je les passe pour passer à autre chose, pour stabiliser la base dont on a parlé, et aller se porter sur d'autres sujets. Et donc, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur une entreprise en hyper-croissance, qui tu vas recruter. Et donc, on a toujours balancé, on s'est toujours orienté entre les hard skills et les soft skills. La première personne qu'on a recrutée, ça a été quelqu'un pour remplacer l'office manager qui est parti et qui avait encore un rôle un peu global. On n'était pas assez gros pour avoir un comptable, un responsable paye. Je dis un ou une, c'est pas parce que je veux genrer les métiers, c'est parce que c'est dans mon équipe actuellement.
C'est comme ça.
Un responsable paye ou un responsable financier, voilà. Donc on avait un peu besoin de gens qui faisaient un peu tout encore au début, et donc on a moins recherché les hard skills qu'on a cherché par ailleurs après, notamment sur la compta, parce que bah, il faut quelqu'un qui est formé. Mais ce qui est à mon sens extrêmement important quand tu démarres, quand tu construis quelque chose de ce genre, c'est la capacité des gens à s'adapter à un environnement qui change tous les 6 mois. C'est extrêmement difficile de se dire ok, aujourd'hui je t'apprends à des bases de compta pour que tu me comptabilises des factures à peu près correctement dans tel ou tel compte. Il y a la capacité à apprendre qui est importante aussi, je viens de le mentionner sans m'en rendre compte. Mais peut-être que dans 6 mois, bah, tout ce que t'as fait, en fait, on va recruter un comptable parce que on aura grandi, on aura besoin, on aura plus de flux. Et puis toi, tu vas te concentrer sur autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. On a recruté une personne en interne qui s'appelle Chaynez, qui était commercial télécom, enfin domotique, et qui a commencé avec moi à faire la compta, à apprendre un petit peu à faire des payes. Puis à faire un peu des contrats de travail, et puis après on a recruté un responsable comptable qui est toujours là. Donc là on s'est plus focalisé sur le hard skill, c'est quelqu'un qui a travaillé en cabinet de comptabilité, mais toujours avec cette optique de chercher des profils un peu entrepreneuriaux, un peu intrapreneuriaux finalement, comme moi j'ai été aussi, hein. Vous avez un périmètre, il est large, et puis pouf, on saisit des sujets, on regarde par quel bout on va aborder ce sujet, et finalement ce qui compte c'est cette démarche intellectuelle plus que les hard skills. Alors évidemment, aborder le sujet de, je sais pas, la comptabilité analytique quand on n'a jamais touché à la comptabilité, c'est pas possible, mais toujours ce balancement entre hard skills et soft skills sur les personnalités entrepreneuriales.
Tu parlais de l'importance de l'adaptation dans l'équipe. Par rapport aux soft skills, est-ce qu'il y en a d'autres auxquels tu prêtes vraiment attention à ce moment-là quand tu constitues ton équipe ?
Il y a l'esprit d'entreprise, l'esprit de d'entreprendre, d'aller se saisir de sujets dont on n'est pas maître ou qu'on connaît pas forcément. Une des questions que j'aime bien poser en entretien, alors évidemment ça dépend du poste aussi, mais c'est qu'est-ce que vous ferez sur vos 100 premiers jours sur le poste à la lumière du contexte que je vous ai donné. C'est assez éclairant sur le fait que les gens vont se saisir des choses qu'elles y ont peut-être même déjà réfléchi avant de venir à l'entretien, et qu'elles vont se dire ok, alors moi j'imagine que ça va être comme ça, donc je vais plutôt y aller comme ça, ou enfin on verra ensemble. Mais voilà, si elles se projettent, généralement c'est bon signe. Si la personne reste je vais faire ce que vous me dites de faire, ça peut convenir à certains types de postes, ça convient pas énormément aux besoins d'une équipe sur une boîte en hyper croissance comme ça. Donc ouais, l'esprit d'entreprendre et la capacité aussi à apprendre, à être curieux. Moi je suis quelqu'un d'assez curieux, mais je veux pas que des gens qui me ressemblent, mais c'est extrêmement important quand l'échelle de l'entreprise change, de savoir se remettre en question et de se dire ok, tout ce que j'ai appris c'est super, maintenant je le mets dans un petit coin et ça va juste me servir de base pour ce que je vais apprendre après. Et qu'est-ce que je peux apprendre après pour continuer d'être performant dans ma pratique.
Tout à l'heure, tu disais que l'équipe financière, quand tu es arrivé finalement, Il y avait une personne, grosso modo. Maintenant, 4 ans et demi plus tard, à quoi ressemble la structure de l'équipe financière chez Selectra ?
Alors, elle est répartie sur plusieurs sociétés entre la France et l'Espagne. Donc, dans l'équipe financière, on a moi. Malgré tout, on peut pas passer à côté. C'est un peu le sujet du podcast. Sans blague. Avec moi, j'ai un responsable financier qu'on a recruté il y a pas longtemps, qui a vocation à apprendre le management de l'équipe derrière. C'est pas encore tout à fait le cas parce qu'il se forme tranquillement et ça fonctionne très bien comme ça. On a un responsable comptable qui est en charge de la production comptable du périmètre français. Une responsable RH paye administrative qui s'occupe, comme son nom l'indique, des payes, qui est Shaynaise qu'on a mentionné tout à l'heure, qui s'occupe des payes, des contrats de travail, de toute la gestion, parfois malheureusement des conflits aussi avec les salariés quand il y a des choses qui se passent pas bien, voilà, c'est cette personne là qui s'en occupe. On a un stagiaire bras droit aussi, le CFO, qui fait la navette un peu entre tous et qui est une espèce de consultant plus quoi. Et puis en Espagne, on a un responsable administratif et financier qui fait la comptabilité et les reporting des sociétés espagnoles en normes espagnoles, et il a un assistant comptable.
Ok, ça fait un petit monde, une petite équipe à diriger. Si on se remet il y a presque 5 ans maintenant, quand tu es arrivé directeur financier à 25 ans, comment tu as vécu le fait d'être passé directeur financier assez jeune, finalement, après avoir eu ce début de carrière en audit financier?
Bon, alors j'ai envie de croire pas trop mal. Y a une anecdote qui est un peu rigolote. Au début, j'ai un peu de mal à digérer ça quand même, surtout que ça arrive dans ma vie par LinkedIn, par l'intermédiaire d'un email. J'ai pas postulé à cette offre d'emploi, hein. C'est Orion, s'il écoute ce podcast, je lui passe un petit coucou, mais qui m'a envoyé un mail. Bonjour, on a une offre d'emploi, vous correspondez au profil, c'était quasiment, si ça vous intéresse, appelez-moi, bisous, quoi. J'ai postulé, mais faut bien voir que ça m'arrive, c'est pas trop dans mon plan de vie, voire même pas du tout. Évidemment, quand on est en audit, on se dit il y a deux choix, soit je vais finir associé du cabinet, ou alors manager, enfin je vais faire ma carrière là-dedans, soit je bifurquerai vers l'entreprise. Moi, j'ai pas trop de recul, mon idée c'est prendre de l'expérience, et puis paf, cette opportunité se présente. Donc j'ai eu un peu de mal à le digérer au début. Il y a une anecdote qui est assez rigolote, qui est au début, quand les gens me demandaient ce que je faisais, ça faisait péter un câble à ma femme, je disais, je fais de la compta. Elle me disait, mais non, tu fais pas de la compta, enfin, dis que t'es directeur financier. Et tu vois, j'avais un peu de mal à le verbaliser. Mais tout ça s'est fait avec énormément de bienveillance et de confiance chez Selectra. C'était dans un contexte où, de toute façon, je vais pas dire, ça pouvait pas être pire, mais il y avait ce besoin, et ça s'est tout de suite bien passé avec les fondateurs, et il y a eu cette relation de confiance qui s'est mise en place. Et donc, ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de doutes quand même, forcément. En plus, au niveau personnel, j'ai déménagé. La personne qui est mon épouse aujourd'hui, c'était ma copine depuis 2 mois. Enfin, rien ne va dans cette histoire. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes. Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça ? Est-ce que je suis pas en train de me planter complètement et de partir d'une boîte qui va bien, malgré tout, KPMG, c'est un acteur installé du marché, à une boîte qui peut-être va se casser la figure dans 2 ans ? Est-ce que au premier contrôle fiscal, je vais pas me faire virer ? Tout ce genre de questionnement, quoi. Et puis, ce doute, il a pas été malsain. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, en fait, au fur et à mesure, en réalisant que, il y avait des succès, on a parlé de la paye, c'est un quick win, il y a eu plein d'autres succès derrière où ça a fonctionné, on a monté l'équipe, on a eu des retours positifs aussi des autres acteurs, de l'expert comptable, du commissaire aux comptes qui disaient depuis que vous êtes là, ça va quand même bien. Donc malgré tout, on prend confiance et finalement c'est positif. J'ai tendance toujours à bien me baquer quand même par rapport à ce que je fais, à bien y réfléchir, mais voilà, ça permet d'avoir confiance en soi, tout en ayant une forme d'humilité aussi, en se rappelant toujours qu'on a été dans une position un peu bancale, et qu'on est toujours dans une position un peu bancale, même aujourd'hui, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas j'espère, le doute, il est toujours là. Est-ce que je me repose pas sur mes acquis? Est-ce que j'ai la bonne trajectoire de carrière? Est-ce que je suis légitime par rapport à mon équipe? Y a plein de questionnements comme ça, mais j'ai envie de penser que c'est sain, et que si on utilise bien ce doute, qu'on n'est pas paralysé par lui, bah ça pousse à une saine remise en question, et ça permet d'avancer.
Un doute qui a finalement été une force, en fait, que tu as pris comme un aspect positif pour avancer dans ta carrière.
Ouais, tout à fait. Et le fait d'avoir un parcours un peu atypique, de venir DAF à 25 ans aujourd'hui, moi, je le vois un peu comme, je vois plus comme une force. À l'époque, je me disais, est-ce que je me suis pas trompé et tout ça, mais maintenant, je le vois plus comme une force, effectivement.
Pierre, merci. Nous arrivons déjà aux questions rituelles de fin. Donc, je vais te poser la première, à savoir, quel a été ton mentor pendant ton parcours professionnel ?
Alors, au risque de qu'on dise que j'ai lu de complètement cette question, moi, j'ai jamais trop aimé les histoires de mentors. J'ai toujours eu l'impression que c'était des cases dans lesquelles on voulait se mettre, pas forcément nous faire rentrer, et que du coup, ça revenait à se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre et être une autre personne. Ce qui m'a jamais vraiment intéressé plus que ça, et du coup j'en ai jamais eu de mentor. Il y a peut-être des gens que j'essaye de pas devenir, du genre la personne qui râle, cinquantenaire, divorcée, en costume cravate, et qui est ultra riche et qui voit plus sa famille. Bon, voilà, j'ai pas trop envie de devenir cette personne là encore une fois, c'est pas pour juger, mais moi, c'était pas mon objectif de vie. Donc, j'ai un peu essayé de faire en sorte d'avoir cet équilibre pour pas arriver à ce point-là. Mais sinon, de mentor, il y en a jamais vraiment eu, et j'ai toujours essayé, entre guillemets, de faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté.
De garder ta propre ligne de conduite.
Exactement.
Par rapport à la question suivante, est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète qui t'aide au quotidien ?
Alors, avoir un enfant, c'est pas mal. Pour s'aider au quotidien et pour être plus productif, ça pousse quand même à vachement minuter sa vie. C'est un plaisir d'avoir un enfant, je veux dire, je l'ai voulu et je le regrette pas du tout, loin de là, mais ça pousse quand même à s'organiser et d'un point de vue un peu plus sérieux. Je pense que le téléphone portable, c'est un outil formidable de productivité, mais aussi de non-productivité, et ça peut complètement nous perdre. Donc un conseil que je donne et que on donne chez Selectra, c'est couper vos notifications, toutes, sauf les appels, parce que ça peut être urgent, mais couper vos notifications, soyez pas happé par votre écran de téléphone, et je dirais même plus, n'allez pas, il n'y a pas de boycott hein, là-dessus, il n'y a pas de position politique ou quoi, mais allez le moins possible sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses qui ont pour modèle de vous consommer du temps. Faites autre chose et vous allez voir, vous allez regagner pas mal de temps.
Objectif, rester focus.
Tout à fait.
Et enfin, quelle est la morale de ton histoire ?
Il y en a deux, trois. Je dirais saisir les opportunités en premier lieu. Les opportunités, elles viennent toujours au moment paradoxalement inopportun. C'est jamais le bon moment pour entreprendre, c'est jamais le bon moment pour changer de travail, pour faire ci, pour faire ça. Je pense qu'il faut se faire un peu confiance et il y a une part de doute, on en a parlé, et de peur quand il y a une opportunité à saisir, mais avec de la réflexion, du travail et un peu de confiance en soi et en les autres, ça peut bien tourner. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Il faut pas se jeter sur la première opportunité qui passe en se dire « Waouh, incroyable !» Ça, y a des risques que ça se passe mal, mais voilà, patience et longueur de temps et font plus que force ni courage. Et peut-être deuxième morale, faites ce que vous aimez. Ça rejoint un peu la question des mentors. Travaillez pour vous, alors pour l'entreprise aussi, a priori, hein, mais faites ce que vous aimez, faites pas ce que les autres voudraient que vous fassiez, que vous ayez une carrière dans une super grande boîte. Si c'est votre truc, super. Si c'est pas votre truc, le faites pas, vous allez être malheureux. Et faites ce que votre intuition, matinée de réflexion quand même, vous dit de faire.
On finit vraiment sur une note hyper positive. Merci pour ça, Pierre. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir partagé ton expérience. À bientôt et bonne journée.
Merci Florence, bonne journée.
Once Upon a Business est une production Emasphere, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.